À tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Clara Delmas, je suis juriste, docteur en droit privé, lauréate du prix Henri Texier I, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Je suis ici pour vous parler de mon travail de recherche, qui a porté sur le raisonnement juridique, et plus précisément sur la question de savoir comment un juge judiciaire, qui est soumis en tant qu'agent du service public de la justice à la laïcité, et donc à la neutralité, peut garantir la liberté de religion des justiciables. Ce sujet, c'est un sujet d'actualité juridique. Il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles il est question de la religiosité du justiciable, mais c'est aussi un sujet d'actualité politique, moins en ce qui concerne le raisonnement juridique que sur ce qui concerne la religion et la laïcité. C'est un sujet qui fait parler en soirée, et toute la difficulté a été pour moi de demeurer dans une posture le moins politique possible, alors qu'on entend parler de laïcité presque tous les jours à la radio, dans les journaux, dans le débat politique. Et du coup, je devais l'aborder de façon juridique, mais aussi pluridisciplinaire, puisque c'est un sujet qui appelle à la sociologie des religions, ou encore à la philosophie morale, l'histoire, etc. Alors une thèse de droit, c'est un exercice particulier. C'est un exercice d'analyse, un exercice de raisonnement et un exercice d'écriture. En fait, c'est une subtile alchimie entre un raisonnement logique quasi mathématique et l'écriture au sens littéraire du terme. Mais la thèse de droit, c'est aussi un concept éthéré dans la conscience collective. Souvent, on m'a demandé « Mais Clara, tu cherches quoi en fait en droit ?» En effet, le droit, c'est un domaine qui parle moins qu'une thèse en sciences dures. En sciences dures, on va rechercher un vaccin, on va étudier la naissance des planètes, on va trouver des voies pour combattre le cancer, etc. Mais en droit, c'est un peu différent. En droit, on va produire un raisonnement, délivrer une analyse et une argumentation. On va essayer d'éviter les propos descriptifs. Par exemple, on va étudier des notions nouvelles et leur implication en droit. Je pense à la blockchain. On va étudier des modèles de protection des majeurs incapables et proposer des évolutions plus protectrices de leurs droits fondamentaux. On va étudier la prohibition de l'inceste et ses fondements, etc. Dans ma thèse, j'ai étudié les décisions de justice dans lesquelles on trouvait un élément religieux. J'ai analysé le raisonnement des juges et j'ai essayé de proposer des pistes d'évolution. En droit, on a aussi un raisonnement binaire. On divise tout en deux. On fait un plan en deux parties. Chaque partie a deux sous-parties. Chaque sous-partie a deux sous-sous-parties. C'est un mode de raisonnement qui nous est propre et qu'on apprivoise dès la première année de licence, qui nous en fait baver, et j'ai une petite pensée pour mes étudiants au moment où je vous dis ces mots. Et enfin, la thèse, c'est un travail de rédaction énorme qui fait en moyenne, pour vous donner une idée, entre 400 et 600 pages. Ma thèse de droit, elle s'est divisée en deux séquences. D'abord, le temps de l'état des lieux, et enfin, le temps de la proposition. En ce qui concerne l'état des lieux, j'ai fait l'état des lieux d'une situation juridique en particulier, celle de la jurisprudence, celle des décisions de justice en droit privé, afin de comprendre et de systématiser la manière avec laquelle les juges prenaient en compte, ou pas, le fait religieux dans leurs décisions de justice. Et ce moment-là, ça a été une vaste entreprise en premier lieu de compréhension de mon sujet de thèse. Ça m'a pris quelques années avant vraiment de comprendre ce sur quoi je travaillais. Et ça a commencé notamment la première année de ma thèse, qui a duré 5 ans. Sur la première année, ça a été beaucoup de lectures théoriques. Des lectures théoriques notamment juridiques, avec des manuels, des actes de colloque, des articles de revues scientifiques, des commentaires de décisions de justice, de la sociologie, etc. Et j'en passe. Au final, ma bibliographie, rien qu'à elle, elle fait 80 pages, pour vous donner une idée. Ensuite, il a fallu recenser. Il a fallu recenser, lire, comprendre, résumer un maximum de décisions de justice dans lesquelles il était fait mention d'un certain nombre de mots qui appartiennent au champ lexical de la religion et de la laïcité. Après avoir recensé ces décisions, après les avoir fichées, je les ai intégrées dans une frise chronologique qui était destinée à me permettre de visualiser et d'appréhender un contentieux qui est aussi abondant en quantité qu'irrégulier dans les solutions adoptées. Et enfin, il me fallait essayer de discerner une éventuelle évolution des raisonnements suivis. En quelques chiffres, j'ai étudié par exemple plus de 500 décisions françaises et 250 décisions européennes. Une fois que j'avais accumulé toutes ces connaissances, il a fallu les systématiser pour arriver à mettre en évidence les différentes manières d'aborder judiciairement les convictions religieuses des justiciables. Résultat, j'ai remarqué une forme de distance bienveillante de la part des juges à l'égard des religions, un effort de neutralité, mais qui peut conduire parfois à la neutralisation du raisonnement et parfois à une inapplication de ce qu'on appelle l'aspect horizontal de la liberté de religion, qui est en fait la garantie entre les personnes privées de leur liberté de religion. Si je vous donnais un exemple de cette neutralisation, ce serait celui par exemple du guet. Le guet, c'est une lettre de répudiation qui est remise par l'époux juif à son ex-femme au moment de leur séparation. Et selon la loi mosaïque, il est indispensable à l'épouse pour se remarier religieusement. Donc si l'époux refuse de délivrer la lettre de répudiation, l'épouse peut demeurer religieusement liée à son ex-époux, et ce, même s'ils sont divorcés civilement. Et c'est pourquoi certaines femmes ont cherché le secours des tribunaux civils dans le but de mettre fin à une situation qui portait atteinte à leur liberté individuelle de religion, celle de se remarier religieusement. Et pour ces litiges, la jurisprudence française s'est retranchée derrière la neutralité et a décidé de se déclarer incompétente à prononcer une obligation juridique de remise du guet. Et elle s'est bornée à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil et derrière la théorie de l'abus de droit. La Cour de cassation et les juridictions françaises ont également refusé d'avoir recours à l'astreinte pour enjoindre l'époux à délivrer lui-même le guet. Et selon la Cour de cassation, la remise du guet ne constitue en fait qu'une simple faculté qui relève de la liberté de conscience de l'époux et dont l'abus ne peut donner lieu qu'à dommages et intérêts. Et in fine, les juridictions elles vont offrir une solution pécuniaire à l'épouse via la réparation de son préjudice, certes, mais pour autant, elles ne mettent pas fin à la situation litigieuse et elles ne mettent pas non plus fin à l'ingérence de l'ex-époux dans la liberté religieuse de son ex-femme. Et cette ingérence, de surcroît, elle n'est pas soulevée par les juridictions judiciaires dans la majorité des cas. Voilà un exemple de neutralité du raisonnement et de neutralisation en fait, de l'action judiciaire qui se comprend, mais qui, selon moi, ne se justifiait pas au regard de la protection du droit fondamental que constitue la liberté de religion. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de ma thèse, j'ai voulu proposer des pistes de réflexion et d'amélioration sur le constat que je venais d'effectuer. J'ai donc essayé de proposer une méthodologie du raisonnement judiciaire qui permette de protéger efficacement la liberté de religion, de la replacer au cœur du raisonnement juridique en tant que droit fondamental, tout en permettant au juge de demeurer dans une posture axiologiquement neutre à l'égard de la religion telle qu'il lui incombe du fait du principe de laïcité. Si je sors un peu de l'aspect théorique et que je reviens sur ma vie de doctorante, ça a été mon moment préféré de toute ma thèse. Ça correspond à peu près à ma troisième, de la fin de troisième à la cinquième année de doctorat. C'est un moment où j'ai vraiment senti que j'avais intellectuellement grandi, que j'étais devenue plus curieuse, que j'avais commencé à maîtriser les notions que je manipulais. C'est un moment où j'ai pu aller lire les décisions américaines et canadiennes. Je suis allée lire de la philosophie, de la sociologie, de la théorie des droits fondamentaux, etc. C'était un moment très très riche qui était en plus nourri par une espèce de frénésie de la recherche doctorale avec un rituel doctoral véritable. Et pendant plusieurs mois, je me réveillais à 6h30 le matin. À 7h30, je partais dans mon café préféré de la place Bellecour boire un café au soleil en terrasse avant de commencer ma journée de travail à 8h30 jusqu'à 21h. Et c'était très intense et c'était comme ça pendant plusieurs mois. Et au final, c'était absolument passionnant et c'est un des moments les plus importants de ma thèse dans ce que je retiens de la vie de doctorant. Et si je reviens sur le fond, il y a deux choses à retenir de cette partie de ma thèse. En tout cas, deux choses que moi je retiens. La subjectivisation de la liberté de religion d'une part et l'appréciation de la proportionnalité d'autre part. La subjectivisation, en fait, l'idée c'est d'adapter le droit aux évolutions sociologiques de la religiosité moderne, c'est-à-dire une religiosité qui est centrée sur l'expérience individuelle et dans laquelle on se réfère moins à l'appartenance religieuse du croyant qu'à son choix individuel. Ce renversement de prisme pour aller moins vers l'appréciation des dogmes d'une institution religieuse et plus vers l'analyse du choix individuel du croyant, elle va servir juridiquement au moment de déterminer si une conviction peut être protégée par la liberté de religion. Comment est-ce que le juge, en fait, va déterminer que la conviction que revendique le requérant devant lui est bien protégée par la liberté de religion ? Et là, la subjectivisation, en fait, elle va permettre au juge d'être plus neutre, puisqu'elle va permettre au juge de ne pas vérifier que la croyance invoquée respecte bien les dogmes d'une religion en particulier. En se centrant sur le subjectif, une conviction sera protégée lorsque l'individu considère sa conviction comme étant de nature religieuse. Et le juge ne va pas vérifier qu'il s'agisse d'une pratique qui est correctement appliquée au regard d'une certaine religion, mais seulement s'assurer de la sincérité de la croyance. Par exemple, si le requérant considère que le fait de ne pas consommer de viande de porc relève de sa liberté de religion, le juge ne devra pas vérifier que la religion revendiquée interdit bien la consommation de porc, mais simplement que le requérant croit sincèrement que le fait de ne pas manger de porc constitue l'expression de ses convictions religieuses et donc l'exercice de sa liberté de religion. Comme je vous disais, la subjectivisation de la liberté, elle est ici mise au service de la neutralité du juge, qui n'a pas à se faire le juge de l'application correcte des dogmes des religions pour déterminer si une conviction est protégée ou non. Ça ne veut pas dire que la liberté de religion sera absolue et que cette conviction va pouvoir amener à tout et n'importe quoi, puisqu'en fait le contrôle du juge va ensuite se réaliser au moment de l'appréciation de la proportionnalité. C'est le deuxième élément à retenir, que je retiens de ma démonstration. La proportionnalité, c'est une technique du raisonnement qui nous vient de la Cour européenne des droits de l'homme et que la Cour de cassation a récemment intégrée dans ses méthodes de raisonnement. C'est une technique qui a été utilisée déjà en ce qui concerne le droit à la vie privée, mais pas encore à ma connaissance pour la liberté de religion. C'est pour ça que je m'y suis penchée dans ma thèse. En fait, quand un droit fondamental n'est pas absolu, comme c'est le cas de la liberté de religion, c'est aussi le cas de la liberté d'expression, par exemple, ce droit peut être limité à la triple condition que la restriction soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit proportionnée. La proportionnalité, c'est donc un élément déterminant dans le raisonnement et elle permet de mettre en balance deux droits ou des intérêts concurrents et donc de déterminer lequel, dans une situation particulière, va prévaloir sur l'autre. L'apport de ma thèse sur ce point a été d'essayer de théoriser ce contrôle de proportionnalité. Comment est-ce qu'on va déterminer si la limitation de la liberté de religion dans un cas particulier est bien proportionnée au but qu'elle poursuit ? Quels sont les éléments du raisonnement qui nous permettent de dire que c'est proportionné ? L'enjeu ici était de tenter d'éclaircir le rôle que pouvaient jouer les convictions religieuses au sein du raisonnement judiciaire. Celles-ci, elles constituent l'objet protégé par la liberté de religion. Elles doivent donc s'entendre comme un intérêt juridiquement protégé qui est destiné à faire l'objet, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, d'une mise en balance avec d'autres intérêts privés concurrents. Les autres intérêts privés concurrents, ça peut être la liberté d'expression, ça peut aussi être la liberté religieuse d'une autre partie. Cette question m'a donc conduit à reprendre une grille de lecture qui est proposée par Colombine Madeleine et qui permet d'en évaluer la commensurabilité, c'est-à-dire le poids que doivent peser les convictions religieuses du justiciable dans la balance. Pour cela, j'ai retenu une grille combinée qui revient à évaluer abstraitement le caractère vulnérable ou non de la catégorie de personnes à laquelle appartient le croyant, mineur, détenu, demandeur d'asile, etc., puis ensuite de mesurer concrètement l'étendue de l'atteinte par l'évaluation de la force normative des convictions revendiquées. Autrement dit, plus une conviction sera tenue et respectée fermement, plus elle aura aux yeux de l'individu une force normative contraignante, et plus l'atteinte qui lui sera portée sera susceptible d'avoir d'importantes conséquences. Une fois évaluée la commensurabilité de la conviction protégée, mais aussi des autres intérêts en présence, l'étape suivante consiste en l'exercice à proprement parler de mise en balance des intérêts. Et là, je me suis interrogée sur la question de savoir comment et selon quels critères cette mise en balance est-elle effectuée. À ce stade, c'est là que je me suis penchée dans les outils de réflexion fournis par la philosophie morale, et ces éléments m'ont été indispensables. Finalement, la méthode que j'ai retenue, c'est celle du conséquentialisme utilitariste. Le juge judiciaire, selon moi, doit se livrer à l'identification des différentes solutions possibles, en évaluer les conséquences spécifiques et systémiques, pour déterminer la solution la plus raisonnable. Et finalement, ce que j'ai cherché à faire dans cette thèse, c'est de fournir les outils d'une prise en compte plus sereine, plus humaine des convictions religieuses des justiciables, pour que la liberté de religion ne soit pas un tabou, pour que sa protection judiciaire génère moins de crispation. Et pour cela, la discussion, la compréhension, doit selon moi être placée au cœur de la méthodologie judiciaire, tout en demeurant, bien évidemment, dans une démarche axiologiquement neutre, telle que nous l'impose le principe de laïcité.